Bien le bonjour, vous êtes sur Ondabulle sur 93.3 FM, c'est Radio Campus et nous sommes à la Japan Expo. Et nous sommes surtout donc avec la nouvelle mangaka française qui monte, Enaibi, bonjour.
Eh bien bonjour tout le monde et bonjour à vous.
Merci. Pourrais-tu, on va commencer avec la question classique, pourrais-tu te présenter un peu à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore ?
C'est compliqué. Bah oui, mon nom c'est Enaibi, j'ai dessiné pour la première fois en publication prose sur une œuvre qui s'appelle Orion, qui est publiée chez Glénat. Donc avant ça, je dessinais en indépendante, mais bon, tout ça c'est tellement anecdotique, voilà. Donc en fait, mes vraies preuves, elles sont là, elles débutent là. Voilà, quoi dire de plus, je sais pas trop.
C'est un très bon début, on pourra peut-être d'ailleurs y revenir. Justement, donc, on va commencer par parler un peu d'Orion. Histoire donc très, on va dire assez shonen on va, dans l'esprit. Est-ce que tu peux nous donner un peu le pitch de l'histoire ?
Alors, ça c'est toujours un sujet qui m'est assez compliqué dans le sens où je ne suis pas du tout la scénariste de l'histoire. Bon, les tâches de moi et d'Ayenke, le scénariste, sont bien distinctes. Et c'est vrai que j'ai un peu toujours la frousse soit de mal résumer, soit d'oublier certains éléments. Donc, comme vous l'avez dit, Orion, surtout sur le premier tome, a un ton qui est très shonen, dans le sens où on va prendre un scénario avec le personnage qu'on ne connaît pas, qui part vers quelque chose qu'il ne connaît pas non plus. Et en fait, c'est là d'ailleurs tout l'intérêt de ce tome-là, c'est qu'on est dans la découverte. La découverte d'un univers qui, a priori, est un peu fantasy, sans l'être vraiment, parce que on va parler dès le départ de capacités particulières et de choses comme ça, mais en fait, on ne les voit pas. Donc, on part avec ces personnages-là, les personnages principaux qu'on nous donne au départ, vers cet univers qu'ils ne connaissent pas. Et finalement, le lecteur, il découvre en même temps que ces personnages-là ce qui va se passer. Et le premier tome finit finalement avec l'épreuve des héros pour entrer dans la cité de laquelle, enfin, dont ils avaient entendu parler, qui aurait donc des habitants qui eux-mêmes sont bizarroïdes suite à avoir passé une certaine épreuve. Et il se dit, bon, la motivation pour laquelle ils veulent s'y rendre, ça, je veux pas le spoiler, mais ils s'y retrouvent et ils finissent par passer cette épreuve. Alors, qui s'en sort, qui s'en sort pas, ça c'est pareil, je vais pas le spoiler, mais ça raconte ça, le premier tome il part sur un ton comme ça. Ensuite, sur le 2 et sur le 3, là ça devient un petit peu plus intime dans le sens où on n'est plus dans la grosse aventure de personnages qui traversent un univers qui s'approche finalement plus d'un aspect classique du shonen. On est et on reste dans la cité dans laquelle les personnages du début sont entrés, avec ceux qui restent, et puis ceux qui sont partis. Alors la grande question, c'est ceux qui sont partis, où est-ce qu'ils sont partis? Ceux qui restent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et sur le 2 et sur le 3, finalement, c'est ça. Même que dans le 3, on se concentre encore plus sur le devenir des personnages qu'on a rencontrés au début, les personnages qui finalement s'affirment comme étant les héros de cette histoire. En même temps, du coup, à travers leur biais, on découvre les personnages secondaires qui, eux aussi, du coup, commencent à prendre un peu de l'ampleur. On commence à poser leur caractère et leurs intentions par rapport aux héros. Donc, on n'est pas dans du démonstratif, il n'y a pas de combat de pouvoir, de machin comme ça. Ça devient, c'est du shonen qui devient un petit peu plus seinen, j'ai envie de dire. On s'intéresse au relationnel des personnages, pas tellement à savoir qui c'est qui tape le plus. Et ça, c'est peut-être un peu moins shonen, mais ouais, c'est vraiment le pour moi. Moi, en tout cas, je ne suis pas la scénariste, encore une fois, donc je ne peux pas parler en son nom, mais quand je le dessine, je le vois comme ça. C'est quand même grave, c'est pas super joyeux, on n'est pas dans le gag déjà, et on essaye de montrer avec les événements qu'on décrit dans les tomes suivants qu'effectivement tout est possible, c'est pas forcément super cool quoi.
Très bien, et justement je reviens un peu là-dessus, tu parles donc de la profondeur de ton manga qui est à mon avis effectivement un des aspects les plus importants, et je vois deux thématiques majeures qui se dégagent donc d'Orion. Une thématique autour du pouvoir, qui est à mon avis très importante, qu'il soit, donc, on peut dire, magique, financier ou même royal, puisque plusieurs modes de types de pouvoir donc, vont être évoqués, et les conséquences et les contreparties qu'offre ce pouvoir.
On pourrait résumer, si on voulait faire une allégorie avec notre société à nous, ce n'est pas du tout le but, déjà, de le faire, mais c'est le monde de l'indépendance face à ce que, quand on est indépendant, on croit voir autour de nous. Donc effectivement, il y a bel et bien ces thèmes-là et cette tranche entre Pour reprendre les royales avec les problèmes d'argent, ça c'est une chose. C'est ce que nous, en tant qu'indépendants, quand on parle des métiers d'indépendants, je parle de tous, hein, mais en particulier des artistes, hein, parce que quel thème un artiste peut bien traiter, c'est la situation dans laquelle il vit, pas ce qu'il fait, mais la façon dont il le vit. Donc là, vraiment, Landgrave, on est dans cet aspect-là. Les indépendants qui sont face aux problèmes en face. Ça marche pas, on nous coince, on peut être rejeté. Les autres, eux, ils obéissent ou alors ils ont pas de volonté propre, qui est on en fait une allégorie avec ce tu veux faire quelque chose, alors tu dois sortir de ça, tu vas dans cette cité, tu passes une épreuve, tu vas en chier. C'est cette espèce de ressenti comme ça. Donc forcément, oui, on retrouve ces thèmes-là, mais finalement, ils sont éternels, j'ai envie de dire. Mais on se met dans cette position-là avec Landgrave. Tous les habitants dans Landgrave, avec chacun des capacités particulières qu'on apprend à connaître. C'est le cas quand on est dans un métier particulier, qu'on découvre les autres artistes. Je dis artistes parce que je connais que ça, moi, personnellement. Mais je veux dire, dans les autres métiers, c'est pareil. On se rend compte que, finalement, les gens qu'on voit comme ça, on a l'impression que c'est tous les mêmes. Finalement, non, ils ont tous des ambitions. Ils vont aller plus ou moins loin, voilà. Mais on a l'impression de ces contraintes-là, tac, là, des pots qu'on leur pose sur la tête, ça, on va pas pouvoir, comme dans le volume 2, quand le seigneur de Landgrave va voir le roi et qu'il le dit, bah, c'est dur, quoi, parce que même si on voulait, c'est dur, je suis un peu contraint, lui-même l'est aussi, parce qu'on pense que c'est la tête de tout en haut qui choisit, mais peut-être pas tant que ça. C'est pas d'hier, on le vit encore aujourd'hui, on l'a vécu déjà, et voilà. Donc, en fait, finalement, c'est une grosse allégorie de ça. Et du coup, ces thèmes-là, effectivement, ressortent. Cela va de soi.
On peut dire que, justement, l'indépendance, c'est pas la liberté. C'est pas exactement la même chose.
Là, c'est compliqué comme question. La liberté...
on va peut-être pas faire un débat philosophique, mais...
Enfin, pour résumer, oui. Ce que ça sous-entend, en tout cas, dans l'aspect qu'on a abordé jusqu'à maintenant, c'est que pour être libre, c'est dur. Et que être libre, c'est pas faire ce qu'on veut, c'est aussi pouvoir utiliser ce qui semble être des contraintes pour en faire quelque chose qui n'en est pas. Et donc, le seigneur Goïti, pour le coup, incarne ce... Voilà. Mais l'autre en face, il fait pareil. Hein. Il dit, c'est des indépendants, mais peut-être que moi, je peux faire quelque chose avec alors qu'ils ne m'obéissent pas. Parce que finalement, les choses sont jamais aussi simples. Et c'est pour ça qu'on s'écarte du shonen pour ça. C'est pas cartésien, bah, ça c'est gentil, ça c'est méchant. Non, 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 tout se rentre comme ça. Exactement. Oui, j'ai dit manichéen. Mais oui, c'est tout à fait ça. Exactement.
Très bien. Et j'en viens dans ce cas au deuxième thème aussi, qui est à mon avis très présent. Donc c'est l'idée de la famille. On peut parler d'un des personnages qui cherche vraiment un membre de sa famille au début du premier volume. Et aussi, donc il y a cette idée donc, de la famille. Filiation, mais l'idée de la famille aussi qu'on va se créer au fur et à mesure de l'histoire. C'est quand même, à mon avis, l'autre thématique très importante, peut-être justement par rapport à cette idée de cette notion de liberté et d'indépendance, de voir comment on peut se lier à ça.
Oui, bah, ça c'est... Enfin, le lecteur le ressent ou le ressent pas, dans le sens où notre personnage, c'est au moment où est-ce qu'on a tout perdu, est-ce que vraiment tout est perdu ? Est-ce que finalement, quand on en a la volonté, on peut pas retrouver ce qu'on pensait ne plus avoir ? Voilà, pour moi, quand je le lis, c'est comme ça que je le vois. Parce que si on prend l'autre personnage, lui, c'est l'inverse. Sa famille est là et pourtant, il s'en va. Donc, on a les deux, finalement. On a autant celui qui, par volonté, et qu'importe sa motivation, il y en a un, c'est parce qu'il ne veut pas se séparer de son ami, l'autre, c'est parce qu'il cherchait son frère. C'est deux raisons différentes. Il y en a un qui s'affranchit de sa famille et l'autre, il veut se la recréer. C'est deux choses qui, dans la réalité, existent. On n'a pas décidé d'en choisir qu'une. C'est ça qui est marrant, c'est que comme les deux personnages vont être traités et suivis autant l'un que l'autre, ils sont complètement différents, autant physiquement. Mais même, là, vous mettez le doigt dessus, je veux dire, même au niveau de leur motivation, si on y réfléchit un instant, on se dit « Ah, mais en fait, ils font le contraire. » Mais au final, ils font la même chose. Et ça, c'est pas une volonté de vouloir le mettre en exergue ou d'expliquer quelque chose. Je veux dire, c'est pas un livre philosophique. Mais le scénariste, ça, pour le coup, il y réfléchit beaucoup. Et c'est vrai que sortir un peu du schéma classique de la vengeance ou de ces choses-là, trouver des raisons, finalement, qu'on côtoie plus souvent au quotidien, mais les mettre dans cet univers qui est fantaisiste, enfin fantastique, avec justement toutes les allégories du pouvoir, de l'indépendance et c'est tout ça, c'est ce qui nous a plu, en fait. C'est volontaire. C'est volontaire, mais on n'est pas obligé de les voir pour comprendre l'histoire.
Voilà, il faut bien comprendre, on reste sur quelque chose de divertissant, mais avec du fond, tout simplement.
Exactement, on peut relire et rechercher, analyser, il y a des raisons, c'est pas gratuit. Voilà. Tous les choix des personnages ne sont pas faits gratuitement. Et on peut soit le découvrir tout de suite, soit attendre un petit peu et découvrir d'autres éléments. Mais Tout ça s'est établi.
Oui. Et justement, j'en reviens un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que le premier tome était donc plutôt shonen et les deux suivants sont justement donc un peu plus sur des bases intimistes et autres. C'est aussi un travail de mise en scène qui est très important. Là je pense qu'on en vient plus peut-être à ta part de travail sur la mise en scène. Pour justement, le premier tome était quand même assez rempli d'action, on peut le dire. Les deux suivants sont un peu plus posés, en tout cas on est justement dans des discussions et choses comme ça, mais il faut quand même arriver à les rendre vivantes, à les rendre dynamiques pour que le lecteur ne s'ennuie pas. C'est un vrai défi ça pour le coup.
Oui, c'était difficile. Au tout début, les toutes premières fois que j'ai reçu des scripts d'Ayenke, parce qu'en fait Orion existait avant la version qu'on connaît aujourd'hui. Et les tout premiers scripts que j'avais, c'était énormément de dialogues. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire pour un dessinateur, ça va être l'ennui, on va se retrouver qu'avec des têtes, une fois de profil, une fois de trois quarts, un buste, voilà, vraiment. Et puis alors qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font rien, ils parlent. Donc ça après, c'est à moi de trouver moyen de mettre ça en image pour que même s'il y a des bulles, les images restent. Oui, c'est un défi. Évidemment, c'est un défi. Surtout, moi personnellement, j'aime beaucoup dessiner les posings, c'est-à-dire toutes les poses dynamiques, les points de vue, les trucs comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup bouger la caméra, la mettre au plafond, la mettre en bas, lui en premier plan, tanana. Donc avec les dialogues, au moins, ça reste possible. Le posing, il ne va pas se faire par la dynamique ou le mouvement, mais plus par vraiment la pose pour le coup de « je suis là, puis après je te tourne comme ça, là, 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 là ». Il faut trouver effectivement à chaque fois des nouvelles idées pour pas que ce soit systématiquement pareil à chaque fois qu'il y a parce qu'il y en a vraiment beaucoup des scènes de dialogue, ça je suis d'accord. Oui, mais c'est un très très bon entraînement.
Mais une fois de plus, comme je dis, on n'est pas dans quelque chose de chiant, donc ça passe vraiment très très bien, bravo. Et surtout, voilà, on termine d'ailleurs sur un cliffhanger à la fin du 3 sans en révéler, c'était quand même assez spectaculaire.
Oh bah, merci beaucoup, là on peut dire le scénariste a beaucoup insisté pour que sur les fins, souvent, les épilogues amènent vraiment quelque chose de particulier. Voilà. On l'a bien travaillé, on a passé du temps. J'espère que, comme vous, les gens ils seront sensibles. Après, s'ils ne sont pas, j'espère au moins que l'histoire qui a été racontée leur donnera envie de continuer sur la suite. Mais oui, il y a beaucoup d'éléments, en fait, ponctuellement, comme ça, où le scénariste m'explique très bien que c'est pas forcément un point d'action qui va être mis en exergue, mais plutôt, je sais pas, un dessin, une sensation, une impression. Là, pour le coup, c'était le cas. On m'a dit, c'est soudainement, il faut qu'on voit cette chose-là, fais-le en sorte que ce soit pas juste un peu simple, que ce soit, je le dis pas, pour, que ce soit impactant, qu'on reste sur une image à la fin du bouquin qui laisse une impression particulière. Et pas juste une explosion ou quelqu'un qui tape la tête à quelqu'un, ce qui est classique, ce qui est très bien. Mais en fait, on essaye vraiment de sortir du train-train habituel du shonen, en fait.
Et c'est un peu ça, justement, le manga à la française, peut-être, aussi. C'est d'apporter des spécificités qui sont peut-être un petit peu plus littéraires, si on peut le dire. Peut-être que je... on verra. on en discutera, peut-être. Justement, quoi qu'il en soit, on va passer justement un peu sur cette notion de manga français. Tu disais, donc, pour revenir un peu à ta carrière, Orion, donc, c'est un projet de longue haleine que tu suis depuis longtemps. Et on voit qu'avec l'explosion du manga français, donc c'est les opportunités qui, à mon avis, se sont arrivées. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce parcours?
Moi, en fait, j'ai commencé à aimer le dessin par le dessin animé et le manga. J'étais pas du tout cultivée au niveau franco-belge. Et même quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune, on n'avait pas vraiment la notion de qu'est-ce qui était occidental, américain ou japonais. Surtout moi, j'étais pas du tout préparée à ça. J'ai pas des parents qui étaient lecteurs de quoi que ce soit de fantasy. Ils étaient plutôt hermétiques à ça. J'avais par contre la chance d'avoir une grande sœur qui, elle, était à fond dedans. Et en fait, j'ai découvert ça comme ça, but en blanc. On m'a livré, on m'a dit, moi j'adore ça, comme beaucoup de petits frères ou de petites sœurs. On regarde la grande sœur en disant, alors c'est que c'est bien. À mon avis, dans notre génération, il y a dû en avoir plusieurs. Et du coup, quand je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose qui est beau, j'ai piqué directement dans ces esthétiques-là. Moi, je voulais dessiner de toute façon. En fait, c'est pas que je voulais dessiner, c'est qu'on dessinait, enfin, ma sœur et moi, on dessinait. On se posait pas la question de savoir est-ce qu'il y a des gens qui dessinent ou qui dessinent pas. On fait dessiner les enfants quand ils sont tout petits. Pourquoi est-ce qu'on arrête à un moment? On s'est pas posé la question, donc on a continué. En suivant le modèle japonais, alors on dira Club Dorothée et compagnie, il y en avait d'autres largement avant, et c'est là que ça a pris ses racines pour moi. C'est pour ça que ça remonte à loin. Il n'y a pas vraiment une date où je me suis dit, tiens, je vais mettre à dessiner du manga. Maintenant, aujourd'hui, comme vous le dites, le manga est reconnu, enfin en tout cas il commence franchement à prendre un essor distinct, bien visible en France, ça n'a pas toujours été le cas. Et pour Orion, quand on avait décidé de travailler à deux et donc de faire quelque chose de complet, pas faire du fanzine comme on faisait les années auparavant, là où on ne doit rien à personne, on le fait, ça marche pas, c'est pas très grave, c'est sans conséquence, toutes ces choses-là, c'est de l'entraînement. Mais quand on s'est dit qu'on voudrait que ce soit professionnalisé, on s'est heurté à pas mal de problèmes. Parce que les éditeurs, à cette époque-là, ils pourront dire ce qu'ils veulent. En tout cas, nous, en tant qu'auteurs, on s'est bien fait nessuyer. C'est-à-dire qu'on envoyait les dossiers et on nous disait « le manga ne nous intéresse pas, le grand format et le noir et blanc ne plaisent pas en France ». Alors nous, ça nous sciait les pattes, puisqu'on était les premiers amateurs à essayer d'apporter ça à travers les fanzines, les machins. On essayait justement, les conventions comme Japan Expo aujourd'hui, c'était quasiment inexistant, ou Tourikiki, mais on voyait bien qu'il y avait une énorme énergie. Alors entendre ça, c'était un peu dur. Mais maintenant, c'est plus du tout le même. Enfin, ils ont plus du tout ce point de vue-là. Mais ça a été un parcours du combattant pour arriver là, très franchement.
Et d'ailleurs, c'est assez hypocrite quand on pense que c'est la même période qu'a commencé le roman graphique avec des œuvres comme Mos, qui étaient des œuvres en noir et blanc et en petit format, avec un côté très littéraire aussi.
Non, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas, parce que j'étais jeune à l'époque, donc j'ai pas analysé pourquoi est-ce que ça passait pas. Tout ce que je sais, c'est que ça passait pas. Et que d'avoir attendu, l'accueil a été complètement différent, genre 7-8 ans plus tard, c'est radicalement différent. Donc oui, il s'est passé quelque chose. Alors certainement aussi parce que les gens qui se sont professionnalisés dans le monde de l'édition ne sont plus de la même génération. Comme on disait, on a beaucoup été... éduqués par cette époque-là où, pour nous, Japon, ça voulait pas dire nul, quoi. Donc, on voyait pas où était le souci, on se disait pas, ah, les gens, ils aiment pas. On avait plein de copains qui aimaient aussi, donc l'idée nous frôlait pas. C'est vrai que les anciens, c'était autre chose. Il y a eu ce changement aussi qui fait que nous-mêmes, maintenant, on se reconnaît avec les gens avec lesquels on travaille, ce qui était peut-être moins le cas il y a 15 ou 20 ans, ça, voilà, certainement. Donc oui, voilà, c'est comme ça en tout cas que pour nous, enfin pour moi personnellement, ça s'est passé comme ça. Je voulais faire du manga, et ben on m'a dit que le manga il fallait pas en faire, que ça marcherait pas, et puis soudainement, ah, si ça y est, maintenant c'est le moment, là on peut y aller, y. Bon ben on y va.
Do it, tout simplement. On arrive presque déjà à la fin, on a deux petites questions traditionnelles. À quoi ressemble ton espace de travail?
Alors j'ai de la chance. Parce que j'ai une maison avec un étage, avec une grande pièce à l'étage, une baie vitrée et tout le tintouin, c'est mon atelier. Comme tous les ateliers, c'est un foutoir sans nom. Il y a deux bureaux, je ne sais plus combien d'ordinateurs, parce que, en fait, pour mon passe-temps, quand je ne dessine pas, c'est de sculpter. Donc si je ne dessine pas les personnages, je les fais en 3D. Cela aussi découle de la frustration dans mes jeunes années où trouver des figurines de qualité ou tout simplement même commander des résines qu'on devait peindre soi-même était une galère sans nom. Donc du coup, pas les acheter ? Eh ben on va les faire. Donc du coup, je me suis fait avec les années, puis surtout quand le jour où on a eu Internet et eBay, alors là, je me suis lâchée. Donc il y a des trucs, des machins, du matériel sur un des deux bureaux, mais comme ça, voilà, un gros tas. Et sur l'autre, bah, c'est le matériel de dessin. Alors là, il faut faire un petit peu plus d'attention parce que le scanner, l'imprimante, ça c'est un peu plus délicat. J'en ai déjà tué, hein, faut pas rêver.
À son âme.
Voilà, donc c'est comme ça, c'est assez restreint. Dans l'organisation de l'espace, la pièce n'est pas petite, mais par contre, j'ai des meubles avec du matériel, mais qui débordent de partout, des tissus, des machins. C'est vraiment l'atelier. Ah, vous rentrez dedans, vous savez que ce n'est pas une chambre à coucher. D'ailleurs, ce n'en est pas une. Hein. Tout est fait pour que j'ai juste à tourner ma chaise pour passer de mon ancrage à mon tramage. Ah bah tiens, pendant que ça sèche, je ponce un truc. Enfin, C'est bien fait dans le sens où j'ai une baie vitrée énorme qui est sur ma gauche, étant droitière, comme ça je me fais pas d'ombre. Donc ça c'est nickel, le truc c'est idéal. Bon par contre en été, on cuit, voilà. Mais c'est ça, c'est là-dedans que je bosse. Mais il y a une coupure avec la vie qui se passe en bas, qui me permet de mieux m'organiser, même si, comme tous les artistes, je déborde pas mal. J'arrive quand même encore à me couper et à réussir à me concentrer sur ce que je fais en haut. Donc ça, pour ça, c'est bien. Je bosse pas en atelier avec des autres gens parce que je suis dans un village où il y a pas grand monde. Alors trouver un autre dessinateur, ce serait vraiment incroyable parce que c'est vraiment la bourgade. Hein. Donc il a fallu avoir cet espace-là justement pour se donner l'impression de lieu de travail. Et moi, je l'apprécie particulièrement aussi dans le sens où je mets toujours des musiques abominables. Donc que les autres en bas, surtout Yankee qui écrit, puissent se mettre les siennes sans que les miennes viennent parasiter. Mais vous inquiétez pas, ça parasite quand même. Je l'entends toujours qu'il chante mes horreurs le soir quand je descends. C'est qu'il les a entendues. Donc voilà, c'est ça, c'est le, c'est comme ça que ça, c'est bien. Non, c'est nickel.
Une bonne symbiose, tout simplement. Et on va donc terminer, c'est toute dernière minute, et donc c'est une minute de libre antenne. Si tu veux parler d'un de tes coups de cœur en termes de bande dessinée ou sur quelque chose, sur un message qui te tient à cœur, tu as quelques secondes pour réfléchir. Tic-tac, tic-tac. Ouais,
là où j'aimerais bien pouvoir répondre quelque chose, mais en fait, si je choisis quelque chose à la vite, ça va être hypocrite dans le sens où, depuis qu'on a lancé le premier Orion, j'ai enchaîné que des planches. Et quand, comme je disais à l'instant, quand je ne fais pas des planches, je fais autre chose. Je me suis un peu coupée de la production environnante, en fait. Alors là, je profite de Japan Expo justement pour récupérer et me renseigner. Mais on me parle de trucs, je ne sais pas ce que c'est. C'est très frustrant. Dernièrement, qu'est-ce qui m'a marqué? Ça va être un vieux machin. Genre, je vais vous parler de Duran parce que j'ai trop kiffé la musique pendant que j'ai signé mon tome 3. Tiens, je ne connaissais pas cet album, mais c'est franchement pas d'hier, hein. Donc je suis en décalage complet, ça va pas être probant.
C'est très bien, donc on mettra un peu de Duran à la fin de l'interview.
Merci. Merci beaucoup.
Et on vous dit à très bientôt, merci à vous.
Et bien de même pour tout le monde.
Coup pour Duran, c'est parti.